Vous écoutez
RMC.
RMC.
S'il revient en équipe de France, c'est avec grand plaisir. J'y ouvre la porte grande ouverte.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Ça se finit toujours par un divorce avec porte et fracas.
L'image que ça donne, moi pour moi, c'est un gars qui doit sortir avec la grande porte.
Ça peut être le premier Cohen dans le... Dans la petite ouverture de porte là que...
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs évidemment sur RMC, sur Afterfoot TV, sur la chaîne YouTube de l'After, première radio de France. Toujours le soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous.
On va parler de Strasbourg, bien sûr, qui ce soir est éliminé de la Conference League en ratant totalement son match. Le 32-16 est ouvert, supporters strasbourgeois. Et puis, grosse page espagnole ce soir, outre le Rayo Vallecano, qui est qualifié. On parlera du Real où... là, on a franchi quand même un palier peut-être jamais vu avec baston et joueur à l'hôpital. Donc, les détails tout à l'heure avec Edgar Grollo qui sera avec nous. Sans oublier l'actu du jour, le PSG qualifié hier. On a une interview également RMC Sport de Florent Ouzo, le patron de Bein Sport, très intéressante à décrypter. Bref, pas mal de choses à faire pendant une heure. Les gars, bon, je pense que c'est pas la peine de faire trois points, à mon avis, enfin, à moins que vous les ayez préparés.
Oui, tu sais, on va te suivre parce qu'on partage ta peine ce soir ou ta colère parce que les deux doivent être mêlés. Donc on va te suivre, on va se mettre dans ta roue.
Ah carrément, là, c'est trop.
On va se mettre dans ta roue avec Flo. On va faire les équipiers là du Tour de France.
Ouais, ou alors les porteurs de cercueil.
Ouais.
Les porteurs. Parce que,
on va se faire porter les bidons. Hein. Ouais, on va lui porter les petits bidons.
Parce que là quand même, là ta saison, on va revenir sur le match, mais. Au final, ce qui va rester de la saison, ce qui se passe en championnat avec les matchs un peu lâchés en vue
il va te rester une demi-finale de Coupe d'Europe quand même, parce que t'as jamais fait ça dans ton histoire.
Ouais, franchement, une demi-finale
en fait,
de Ligue 1.
Après avoir voulu choisir, tu te mettais face au risque de prendre le mur. Et le mur, c'était un mur qui te disait t'as fait les mauvais choix, tu t'es planté et ta saison sera pas bonne. La seule porte de sortie, c'était d'être à Leipzig, là, le fameux road to Leipzig. À l'arrivée, c'est road to ta maison, quoi. Et la saison, elle est pas bonne parce que t'as finalement un gros budget, t'as des très bons joueurs et t'as géré la deuxième partie de saison complètement à l'envers. Alors, t'as eu quelques blessés, ok, mais bon, beaucoup de clubs en ont des blessés. Et moi, je suis ce soir partagé entre je pense que le sentiment qui domine, c'est limite presque plus la colère, parce que j'ai pas du tout aimé le match que Strasbourg a fait, même si, avec un peu de lucidité, quand j'entends Strasbourg a manqué son match retour, a manqué son match aller, mais si t'as manqué ton match retour à ton match aller, c'est juste que l'adversaire était meilleur que toi.
Mais là, Strasbourg mérite pas, c'est tout, point barre.
Non, mais c'est juste que l'adversaire, il est meilleur que toi. Et si le Rayo Vallecano.
Le Rayo Vallecano, ils ont montré, enfin, un truc très con, en fait, ils ont montré ce qu'était une équipe de foot, en fait. C'est-à-dire que t'es solidaire,
des principes simples, de la technique, de la combativité, des mecs qui vont dans le même sens. Voilà. Et à Strasbourg, t'as pas de stars non plus. Si t'as des stars, c'est des mecs qui se prennent pour des stars, mais qui ne le sont pas. Ah bah, et ça, c'est possible.
Il y en a qui se prennent pour des stars et qui ne le sont pas. J'ai quelques noms, si tu veux.
Oui, mais quand t'es dans un club comme Strasbourg, qui vient d'être acheté par un gros fonds, avec des passerelles possibles vers Chelsea, avec des mecs qui ont été encensés, parce que dans notre championnat, Rayo Vallecano, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent retourner l'histoire dans tous les sens. En Espagne, personne ne parlera d'eux parce que t'es focalisé sur 10 000 autres clubs avant. Dans notre championnat qui est souvent très bien plus homogène derrière le PSG, t'as toujours de la place pour des histoires et des gens qu'on va un peu plus monter, qu'on va mettre en avant. Et Strasbourg, cette année, on en a énormément parlé. Donc peut-être que certains se sont pris pour des vedettes. J'en sais rien. Je veux pas m'avancer là-dessus. Toujours est-il que ce soir, comme tu l'as dit, ils ont pris la mesure de ce qui les séparait d'une grande équipe. Juste d'une bonne équipe.
Ouais, mais
d'une bonne équipe.
Après, ce qui m'inquiète plus, moi, par rapport à la gestion sportive.
Non, mais regardez, mes gars, sans déconner. Regarde, attends, excuse-moi, vraiment, Flo. Tu peux continuer à parler, excuse-moi de t'avoir coupé, mais jette un coup d'œil en même temps que tu parles sur Emega au milieu de la pelouse. Moi, je veux bien. Tu sais, c'est toujours pareil, le mec qui se la raconte et tout. Si à un moment t'assumes, raconte-toi tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu te la racontes et que t'es comme ça là, regarde-le là. Mais t'es juste un guignol en fait. T'es juste un guignol.
Parce qu'il est sur la pelouse avec ses lunettes de soleil.
Avec les lunettes, l'espèce de grosse chaîne et tout. En fait, t'es juste. Et puis,
Morera,
regarde Morera qui lui dit Morera, tu dois voir Gilbert, non, tu vois là.
Morera et Emega.
Tu vois la scène ou pas?
Ouais. Parce qu'en fait, Emega voulait calmer.
Il dit vas-y, laisse tomber et tout. Et lui, il veut aller voir les supporters en disant. En gros, ne nous engueulez pas, machin et tout.
Non, parce que là, attention, parce que là, c'est chaud. Hein. Là, ouais. Ils sont en train de se faire insulter par le cop strasbourgeois, les gars. Et donc là, c'est la séance.
Et Morera, il se barre, il fait la gueule. Regarde, Morera,
en fait, Emega est allé devant les supporters et il a voulu dire vous pouvez m'engueuler moi, mais n'engueulez pas les autres et les autres joueurs. Et Morera a voulu l'empêcher d'aller voir les supporters.
Son attitude n'est pas si négative que ça, parce qu'il demande vraiment à tous les joueurs d'applaudir le public. Il assume le fait d'être le capitaine. Il veut être le capitaine. Enfin, il montre qu'il est le capitaine. Il protège ses joueurs quelque part. Enfin, les membres.
Il fait pas le malin. Voilà, effectivement, c'est parce que. Et puis, il estime que le public est dur et donc il a demandé au public d'applaudir les joueurs. Et il a même dit ne m'applaudissez pas moi si vous le souhaitez par rapport à ce qui s'est passé à son transfert à Chelsea, j'imagine. Ouais. Mais applaudissez les autres. Je vais juste revenir moi sur un truc qui est.
Tu vas rajouter une fracture qui s'est creusée là avec ce qu'on a vu entre ultra et joueur.
Mais c'est un peu
parce qu'il y avait la fracture entre ultra et dirigeant, tu vois. Et là, tu vas rajouter ça parce que
là, c'est la soirée. Mais tu parlais de colère, moi je parle.
Là, tout est pourri, quoi.
Je parle un peu de résignation, Gilbert, et de faillite sportive. C'est pour ça que ce qui est intéressant d'analyser. Pourquoi Strasbourg a fait deux mauvais matchs contre le Rayo Vallecano? Parce que les joueurs étaient bouillis. Moi, ce soir, je suis pas en colère contre les joueurs, parce que c'est pas parce qu'ils se sont pris pour des stars qu'ils ont perdu. C'est parce que l'équipe, depuis déjà un petit moment, elle est bouillie, elle est cramée. Barco, il est revenu de blessure, il est cramé. Guéla,
d'où
est-ce
que
ils ont joué moins de matchs que le Rayo Vallecano.
Mais je l'ai vu au match aller. J'aurais pu te dire à la fin du match aller. Et c'est pour ça que je te dis que l'analyse de la saison sportive entre les changements d'entraîneur et justement la gestion des temps de jeu et de la fatigue, puisqu'on en parle beaucoup au Paris Saint-Germain et qu'on estime que c'est une des réussites, cette gestion des temps et des récup au PSG.
C'est ça aujourd'hui, de toute façon.
Bien sûr, sauf que là, tu t'aperçois depuis le match aller, quand je les ai vus au match aller.
Ils ont tenté de le faire, Flo, mais ça n'a pas suffi, je pense. Parce que l'équipe a tourné en Ligue 1 ces dernières semaines.
Donc, Gilbert, que dans la gestion globale là, du staff, la gestion sportive, physique du staff, il y a des erreurs de fait. Puisque tu as raison, ils ont fait tourner et ils n'arrivent même pas avec un calendrier somme toute classique et en ayant fait tourner à avoir du jus. Rappelons quand même que sur les 4 derniers matchs de Coupe d'Europe, ils ont perdu assez violemment le match aller à Mayence et ils viennent de faire deux matchs catastrophiques avec 3 tirs cadrés là dans cette demi-finale. Hein. 3 tirs cadrés en 180 minutes. Donc moi je pense qu'on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut sur la multi, sur tout ça. Mais déjà, dans le fonctionnement là, dans ce nouveau fonctionnement, on va dire, avec des moyens et qui a apporté quand même une aventure en Coupe d'Europe, il faut aussi se poser des vraies bonnes questions dans l'organisation, dans la gestion des staffs médicaux, dans la gestion physique des joueurs. Parce que là, ce soir, c'est pour ça que moi, j'ai pas de la colère. Depuis le match aller, je suis plutôt résigné. Quand j'ai vu que dès les premières minutes, les 15 premières minutes, le Rayo Vallecano était dans le camp strasbourgeois et faisait son match tranquillement, et en ne s'épuisant même pas à la récup, et récupérer les ballons sans s'épuiser, je me suis dit ok, ils sont bouillis. Il se trouve que Guéladoué et Barco, j'avais un petit espoir en voyant la compo, parce qu'il faut dire quand même qu'ils ont fait le match aller sans Guéladoué, sans Barco et sans Panicelli.
Oui, mais bon, les mecs reviennent de 3 semaines absolument sans compète.
Ouais, même plus pour Guéladoué. Mais ça ne me convainc pas. Il n'y a pas à être cramé. Il y a pas. Si tu le laisses, ça veut dire que des choses ont été mal gérées par la cellule performance. Rayo Vallecano a joué plus de matchs que Strasbourg. Strasbourg a zappé plein de matchs, a fait reposer des joueurs. Il n'y a aucune raison d'être cramé. Moi, je ne retiens pas ça. Je vais juste retenir que le Rayo Vallecano est une équipe qui est meilleure techniquement, meilleure dans les positionnements. Si tu regardes le match de Strasbourg ce soir, il y a des positionnements de joueurs qu'on n'a pas compris. Ouattara, on n'a pas compris.
Alors,
son match.
Justement.
Guéladoué, si Guéladoué, il va pas bien parce que le pauvre, il a eu un virus, qu'il a perdu des kilos et tout, alors dans ces cas-là, ne le fais pas jouer. Alors effectivement, après, tu n'avais plus de pointe, donc il a fallu que tu bricole. Bon, Nanasi, il peut jouer, il n'a pas joué, il l'a fait rentrer après. Bon, voilà, il y a des choix, il y a des positionnements, il y a probablement aussi un déficit technique par rapport à l'équipe en face, qui est une équipe typique espagnole où tu es technique du gardien jusqu'à l'attaquant, où tu sais faire 3 passes, tu sais faire un décalage, enfin des trucs de base. Et que peut-être que Strasbourg joue plus sur l'intensité.
Le Palasson que tu as vu en face, c'était très bon.
Ouais.
Et Barco était largement à ce niveau-là avant. Mais
globalement, il y a plus de technique dans l'équipe de Rayo. Il y a plus de de rapport positif au ballon. Mais Strasbourg pouvait faire autrement, c'est-à-dire avec ce qui fait la force du football moderne aujourd'hui, c'est tu rentres dedans, tu vas à l'intensité, tu profites des espaces, t'es plus rapide, tu mets de la vitesse, et c'est souvent comme ça. C'est comme ça que Strasbourg a renversé Mayence, c'est comme ça que Strasbourg a fait les bons matchs cette année. Là, à part une ou deux accélérations de Moreira, qui est peut-être le dernier à ne pas avoir lâché dans ce match, bon, après, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était pauvre.
J'aimerais
c'était
qu'on ouvre le dossier, Gary Olive. Daniel, tu m'entends ou tu m'entends pas, là, en fait?
T'as juste été inférieur.
Vas-y, Gilbert.
Est-ce que vous...
On t'entendait
vraiment?
Oui, oui.
Donc, en fait, tu t'en fous quand j'essaie d'en placer une. En fait, c'est bien ce que je pensais. Donc, je vais vous lister.
Entendu, c'est tout, t'es loin.
Ben, mets un casque, comme ça, tu m'entendras. Gary O'Neill, je vais vous lister quelques erreurs, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on ouvre le dossier. Il y a eu des erreurs déjà récentes de coaching, de choix de joueurs, mais là, je reste juste uniquement sur ce soir. Tu es en demi-finale retour de Coupe d'Europe, donc tu es sur un match décisif. Donc, il fait jouer Ouattara. Ouattara qui a joué latéral, qui a joué 6. Là, il le fait jouer, 10. 9,5, 10. Mmh. Bon, il n'a jamais joué là. Donc là, dans ce match-là, il fait ça. Il met N'Sizo avant-centre, il l'a déjà fait, ça n'a jamais marché, ça a encore moins marché que d'habitude ce soir.
Et il ne met pas Nanasi.
Il ne met pas Nanasi.
Fin de saison que N'Sizo.
Il ne met pas non plus Amoa Meyo, qui a été le seul qui a été très bon en Ligue 1 ce week-end. Voilà. Il y a un pénalty à la fin qui peut te permettre de rêver 5 minutes. Tu vois, tu dis tu marques le péno, éventuellement, je ne sais pas, moi, sur un malentendu, une dernière action. Il fait tirer qui? Le mec qui est en échec absolu sur tout le match. Ben, au bout d'un moment,
sur O'Neill, là où tu as raison, c'est que déjà, je me suis fait plusieurs réflexions. Un sur la compo, tu as tout à fait raison. Sur la communication même entre les deux matchs, où, si tu veux, j'ai pas vu le mec qui avait compris, mesuré l'enjeu et l'ampleur, on va dire, de ce qu'il avait à faire, tu vois, qui était dans une forme de gestion. Et en fait, il est dans une forme de passivité qu'on a vu dans la première période, ou qui était catastrophique, la première période. C'était un miracle que ça, à 0-0, ça aurait été parfait. Mmh. Ils prennent le but à la 42e. Et là, il est à discuter avec ses adjoints pendant 20 à 30 minutes. Sans intervenir ou très peu directement, tu vois, sur le terrain.
En faisant des mauvais choix.
Et or, c'est une équipe jeune. Et là, le coach, il doit être présent pour changer quelque chose quand tu prends le bouillon, comme c'était le cas face au Rayo Vallecano.
Moi, quand il est arrivé, j'ai pas vraiment d'idée sur ce coach. Ce que vous dites, je l'entends.
Vous le connaissez pas, de toute façon.
Mais ce que je sais, c'est quand il est arrivé, les premiers commentaires à son sujet, c'était oh, dis donc, ça joue beaucoup mieux qu'avec Rosenior. Ça a été dit par plein de gens.
Ça joue plus vertical.
C'est beaucoup plus efficace, mieux.
C'était vrai. Parce que Rosenior, lui, il avait ses sorties de balles à 12 passes dans la surface de réparation. Donc forcément, lui, il a arrêté ça, O'Neill. Donc tout de suite, tout le monde a dit ah ouais, c'est plus vertical.
Écoute, ça a fait partie des choses cette année que j'ai souvent répété, c'est les avis divergents qu'on a eus sur les coachs et sur la prestation des équipes. On n'a pas arrêté, il y a eu 1000 va-et-vient, ah il est formidable, ah il est pas bien, ah il est formidable, il est pas bien. Bon, ben, je vais pas vous refaire la liste de tous les coachs de Ligue 1 qui ont eu droit à ce genre de commentaires. Gary O'Neill en a fait partie, tout comme Rosenior avant lui. Limite, c'était une libération quand il s'est barré. Quand il est arrivé, c'était formidable, étudiant américain, génial, tout, formidable. Il y avait 1000 trucs. Bon, voilà, on peut taper sur Gary O'Neill si vous voulez, j'ai aucun problème.
Moi, Daniel,
il est arrivé en cours de saison.
Sur O'Neill, je vais pas taper.
C'est un crack.
C'est sûr du factuel du match,
Gilbert, je vais te dire tout simplement que Gary O'Neill a bien géré la Ligue 1. Après, ils ont tourné à la fin. Bah, et que globalement, ce qu'on a vu dans le jeu, comme tu disais là au début, moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait.
Les mecs, ils se sont tapés des défaites.
Je parle juste sauf à la fin parce qu'ils ont fait tourner. Mais quand il a pris l'équipe, on a effectivement, comme dit Gilbert, plus de simplicité, plus de verticalité. Honnêtement, pour un gars qui arrive comme ça à brûle pour point, il s'est plutôt bien débrouillé. Mais moi, je pense tout simplement qu'il a toucher une forme de plafond de verre avec la Coupe d'Europe. Là, il a en face des mecs qui savent jouer ensemble, qui savent comment faire. Moi, je l'ai vu sur son banc là, ne pas intervenir suffisamment tôt, ne pas changer, passer son temps avec les tablettes et les adjoints. Honnêtement, ces coachs 2.0 là, qui passent 3 heures avec leurs adjoints sans jamais intervenir sur le terrain, c'est impossible.
Je sais pas, après le match raté à Mayence, c'était pareil.
Vous avez compris à quoi ça sert de prendre des notes sur un carnet pendant le match, vous avez compris l'utilité de ce truc t'es coach, tu as besoin de prendre des notes dans un carnet.
Ça, c'est bizarre, non? Tu le vois plus trop quand même.
Bon, les notes dans un carnet, c'est fait longtemps. Hein. Van Gaal faisait ça.
Et Rosenior le faisait, Onay le faisait. Peut-être qu'ils sont formés comme ça, les mecs, en Angleterre, j'en sais rien.
Rudy Garcia le faisait, il y a tout plein de choses.
Ah, c'est vrai, Rudy Garcia le faisait.
Non, mais après, t'as deux trucs. Est-ce que tu notes un truc qui n'est pas urgent et que tu te dis, tiens, je vais te dire à ce joueur-là que dans la semaine, qu'il faut travailler ce truc-là. Mais là, en l'occurrence, on était sur. Mais attends, la première période, moi, j'ai été sidéré. Le Rayo, ils étaient dans le camp de Strasbourg. T'avais l'impression que c'était eux qui avaient un but à remonter. Donc, moi, je pense que dans les intentions, dans la façon dont ils ont préparé ce match, non, et même dans la compo.
Qu'ils ont été parfaits. Ouais.
Oui, mais dans la compo qu'il met, moi, je dis toujours que t'envoies un message aussi à tes propres joueurs. Et c'est vrai que moi, quand tu mets un peu cette compo là et que Nanasi reste sur le banc, évidemment il le met à la 46e.
Bah, la compo, il y avait les joueurs offensifs qu'il fallait. C'est le positionnement de Ouattara.
Tu mets pas le meilleur joueur. Ouattara.
Tu mets juste Nanasi à la place de Ouattara en fait. Oui. Déjà.
Non mais d'accord, mais il faut souligner. Ouais. Manquez pas de souligner quand même que le Rayo est arrivé et a dit. On joue, on ne va pas attendre.
Exact.
On va s'installer nous dans le camp d'en face. On va nous faire le pressing. On va nous faire parler la technique et faire tourner le ballon. Il faut les féliciter. Ils ont simplement été vraiment meilleurs. Alors après, on peut trouver plein d'explications à la prestation médiocre de Strasbourg. Et il y en a plein. Mais il y a un adversaire.
On a vu des bons joueurs.
C'était meilleur.
Parce que moi, ce Palasson là, tu sais, le joueur qui a la coupe de Gilbert Brigois.
Il y en a plusieurs.
J'inspire les meilleurs, tu sais.
Ouais, la plaque tournante du Rayo.
Et je t'annonce qu'avec un petit peu plus d'adresse. Je pense que c'était bouclé très vite, là, match.
Ouais, Pender, ça fait quelques heures.
Parce qu'on rate.
Pender, c'est le meilleur joueur des deux matchs. Allez, comme retour.
Ouais.
Tiens, écoutez Ouattara il y a quelques instants sur Canal.
Ouais, c'est ça, comme vous l'avez dit, on est très déçus ce soir. Parce que ça nous tenait à cœur de se qualifier pour la finale. Mais bon, voilà, c'est passé. On les félicite pour les prestations qu'ils ont fait aujourd'hui. Franchement, ça nous tenait à cœur d'aller à la finale. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire franchir d'étape. Mais franchement, on les remercie pour le soutien qu'ils ont apporté depuis le début du parcours. Et franchement, on les remercie, rien à dire. Et voilà, nous, en tout cas, nous, on est très déçus. Et on espère se relancer en championnat.
Dans un instant, Antoine, au 32-16, sera avec nous. On fera une petite évaluation et on passera au reste de l'actu du jour. Dommage, on aurait pu avoir deux clubs en finale de Coupe d'Europe, comme en 2004, comme en 96.
Vous avez eu le soutien du patron du foot français qui est venu, et du foot européen aussi.
Oui, je l'ai vu dans les tribunes. Je ne sais pas s'il a été invité ou s'il s'est invité, mais je pense qu'on l'a invité.
Il est venu en tant que patron du foot français et européen, c'est normal. Mmh. C'est comme Seferin va voir les matchs de Coupe d'Europe ou... Et le patron de la LFP va voir les équipes françaises.
C'est celui qui fait décaler les matchs de Ligue 1.
Voilà, à partir du moment où il fait le calendrier, il soutient les équipes, il décide de qui prend de la thune ou pas de la thune, il décide de tout, de la répartition de ça. Pourquoi tu veux qu'ils ne viennent pas soutenir Strasbourg ? C'est quand même hallucinant. Je veux dire, à quel moment on a vu des présidents d'autres clubs aller voir ? Enfin, c'est incroyable. Genre, nous sommes les pacificateurs, nous supportons tout le monde, nous venons. C'est juste fou ce qui se passe dans notre football, mais. Bon, comme le PSG est en finale de Ligue des Champions, on ne peut absolument rien dire. C'est malvenu. Mais c'est fou.
Et on revient dans quelques instants pour conclure l'analyse de ce match et partir à Madrid où Edouard Grelot va nous raconter comment le Real Madrid est devenu un club de MMA.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h19, Strasbourg, ici au stade de la Méno, est éliminé de la Conference League. Défaite 1-0 face au Rayo Vallecano qui jouera la finale face à Crystal Palace, donc à Leipzig fin mai. Et puis la finale de l'Europa League, vous avez vu, opposera Aston Villa à Fribourg. Donc,
c'est pour Unai Emery l'Europa League.
L'Europa League, oui, c'est sa coupe.
Voilà.
Avec le prince William dans les tribunes en feu. Je ne sais pas si vous avez vu les images.
Tout à fait.
Il est complètement à bloc. Bon, Antoine est là, supporter du Racing. Salut Antoine.
Salut tout le monde.
Salut Antoine.
Bon, Antoine, est-ce que à un seul moment dans ce match, tu y as cru ? On n'y a pas cru une seconde en fait.
Alors, il commence le match ? À Strasbourg, ils jouent à quelle heure Strasbourg ? Je suis désolé, j'y ai pas cru. Honnêtement, on n'a jamais été dedans. Alors, on n'était déjà pas dedans au match aller, on n'a pas été dedans au match retour. On n'a jamais été incisif. J'ai senti aucune envie, j'ai senti aucune énergie. Au-delà de l'envie, j'ai senti aucune énergie. J'écarte Moreira, qui a fait un match encore une fois. Il était moins en forme que d'autres matchs, mais il était partout. Mais même un Barco, je l'ai pas senti incisif. Il n'était pas à son niveau.
El Mourabé qui avait fait un excellent match contre Leipzig, là, contre,
très,
pardon,
mauvais,
contre,
très mauvais match.
Contre Mayence, était transparent ce soir.
Je pense qu'El Mourabé, c'est une question d'énergie. Il est cramé.
Côté El Mourabé, tu regardes son visage sur le banc.
Il a fait une saison.
El Mourabé est souvent très irrégulier. Il a fait des très bons matchs et des très mauvais cette saison.
Moi, j'insiste, et Daniel, t'es pas d'accord là-dessus, mais je pense qu'on en revient à ce que tu disais, sans doute à la cellule de performance, à tout ça. Les mecs, tu regardes leurs attitudes et leur façon de fonctionner.
C'est pas que je suis pas d'accord, je dis que c'est pas normal.
Ah oui, je suis d'accord. Alors là, on est d'accord. Effectivement, El Mourabé, il était fatigué sur le terrain, il était loin des joueurs, et après sur le banc, il avait l'air d'être au bout de sa vie. Physique, je parle. Et j'ai vu beaucoup de joueurs comme ça.
J'ai l'impression qu'il allait dormir. J'ai l'impression qu'il allait s'endormir.
Exactement. Et Barco et Doué, qui ont. Doué, par exemple, a fait plein d'efforts, il s'est retrouvé devant le but, mais il n'avait pas le jus.
Doué, à la limite, je veux bien entendre. Le gars a été malade, il a perdu 5 kilos. Barco revient de blessure. À la limite, là, je peux entendre que les gars soient un peu en dessous. Les autres, ouais, ça m'étonne. Sachant qu'en face, c'est plus vieux et ça a joué plus, c'est pas normal.
Antoine, sur l'évaluation, donc tu sauves Moreira et point barre.
Penders,
homme du match côté Strasbourg.
Penders, Moreira, Doucouré a quand même.
Enfin, ça ne sert pas à grand chose de trouver un homme du match à Strasbourg. Hein.
Ouais, en effet, en le disant, je m'en suis rendu compte. On aurait dit, c'est Taulier en fait.
Voilà. Mais tu vois, Gilbert, pour rappeler ce qu'on avait eu comme débrief après Strasbourg-Mayence, c'est ce 4-0. Et si on s'était enflammé, je t'avais dit. Oui, mais les mecs surjouent dans une ambiance survoltée quand tout va bien. Mais derrière, quand tu reviens à la réalité physique, au problème de l'usure, et que les mecs te font tourner le ballon et en bourrique comme l'a fait le Rayo, là, il n'y a plus personne. Hein. Godot, il a été cramé.
Le Rayo, pardon, mais c'est une équipe qui, à l'extérieur, affiche des résultats pas bons.
Catastrophique.
Le dernier tour, on en a souvent parlé, là, contre l'AEK Athènes, le match retour, ils ont pris l'eau dans tous les sens, et on parle de l'AEK Athènes, hein, moi je veux bien, mais si ça devient des références par rapport à nos clubs, bon, sans être offensant, ce que l'AEK Athènes a fait contre le Rayo, je pense que Strasbourg était en mesure de le faire. Ils leur ont mis le feu terrible. Ils se sont sauvés. Il y a eu 3-0 à l'aile pour Rayo, 3-1 pour l'AEK, mais les dernières minutes, c'était tout dans la surface, ils étaient acculés. Bon, ben voilà, Strasbourg n'a pas réussi à mettre la détermination, mais il y a peut-être aussi eu, on n'en a pas parlé, mais un défaut dans l'approche psychologique, une idée qu'ils jouaient tout sur cette saison à force d'avoir trop choisi ce truc-là.
Justement, moi, le mystère, il est là. Comment tu ne mets pas le feu au match comme tu as su le faire contre Mayence?
Mais tu peux plus.
Parce que psychologiquement, tu dis alors parce qu'on l'a fait, on doit le refaire, parce qu'il y a trop d'attentes autour de ça.
Eh ben ouais.
Moi, je pense, Gilbert, que Strasbourg n'en avait pas les moyens physiques. J'insiste, je pense que les joueurs.
Moi, je pense, l'approche psychologique, elle mentale, aussi, elle a également été défaillante.
Je te dis que O'Neill, dans ses confs, effectivement, je n'ai pas senti un coach qui portait l'équipe, c'est vrai. La compo, on en a parlé. Mais quand même, je pense que physiquement, de toute façon, il ne pouvait pas le faire. Après, ce qui est la conclusion de ce que vous dites sur l'AEK Athènes, sur le Rayo et sur les autres clubs. C'est le niveau aussi d'un club 7e de Ligue 1 dans l'Europe d'aujourd'hui. C'est aussi la réalité de notre foot. Faut pas non plus rêver.
Mais le 7e de Ligue 1, je suis souvent d'accord avec ce discours, je le tiens également. Mais tu dois pouvoir transcender ça. Contre Mayence, tu l'as transcendé. Qui est une équipe de Bundesliga. A priori, une équipe de Bundesliga contre une équipe de Ligue 1, c'est toujours Bundesliga qui va gagner, grosso modo. Strasbourg a montré que tu pouvais un petit peu aller au-delà un petit peu de tout ça. Tu pouvais bousculer les choses. Ben là, t'as rien bousculé du tout, parce que même si techniquement ton adversaire est supérieur, t'as même pas su lui rentrer dedans. Au minimum, tu peux faire un pressing ordonné, il n'y en a pas eu.
Antoine, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, c'est pas ça, on pouvait s'y attendre. En fait, il faut déjà remonter au match contre Nice, en Coupe de France. On aurait dû le gagner, ce match. Si on prend le même discours sur le classement. Le niveau des équipes de Ligue 1, etc., on aurait dû le gagner. Et en fait, déjà contre Nice, c'était déjà pas ça. Ça fait quelques semaines qu'ils sont pas dedans. Ils sont en fin de saison.
Mais le match contre Nice, tu fais bien de te référer à ça. Moi, je l'ai vu ce match. Pour moi, Strasbourg l'a perdu, mais ils l'ont perdu dans l'approche. Et l'approche, ouais, ça ressemblait à quelque chose qui voulait dire on est à la maison, on va se qualifier. J'ai l'impression qu'ils pensaient se qualifier avant même de jouer. Et là, parfois, j'insiste, je reviens un petit peu dessus, l'aspect psychologique. Je me demande s'ils se sont pas dit. Bon, on l'a fait contre Mayence, on va bien le refaire contre
eux. Il y a un peu de boulardisation,
Dès le début de la rencontre, la façon dont le Rayo a pris le match, ça les a complètement perturbés parce que probablement ils ne s'attendaient pas à voir une équipe venir si haut les chercher et jouer autant avec le ballon, quoi. C'est peut-être ça qui les a beaucoup perturbés.
Je suis pas forcément d'accord, parce que pour moi, si ça avait été ça, dans les 10 premières minutes, ils auraient essayé de mettre le feu. ils auraient voulu la faire comme Mayence, ils auraient voulu mettre un truc. Là, même d'aller tous les 5 premières, minutes, ils n'étaient pas dedans. Il n'y avait pas d'énergie. Il y avait pas, ça partait pas vers l'avant.
Parce qu'ils se sont fait rentrer dedans tout de suite.
Après, ce qui m'a gêné, moi, en dehors de l'aspect physique, de ce manque d'envie et du fait, comme dit Daniel, je pense, moi-même, j'ai été surpris de voir le Rayo aussi haut et jouer autant. Je pense quand même que sur les rares moments.
Tactiquement, ils ont très bien joué le coup, le Rayo aussi.
Très, très bon. Ouais. Mais néanmoins, dans ce cas-là, il te reste un truc, c'est les coups de pied arrêtés. Et là, les coups de pied arrêtés ont été très mal tirés, y compris par Barco. Non, mais il y en a eu un notamment, et tu sais, Barco, il a mal tiré. Je te parle,
Il n'y en a pas eu 10 en tout dans le match pour Strasbourg, entre corner et coup franc.
Et non, mais tu vois, dans ces moments-là, tu vois, un vieux corner, la preuve, regarde la situation qui amène le péno. Tu vois, ce genre de truc, un peu de folie qui t'amène une main et un péno. Eh ben, ça a été aussi mal tiré. Donc, je trouve que, moi, pour moi, la déception, elle est là aussi, techniquement parlant. Oui, bien sûr, il y avait des bons joueurs en face. Je pense qu'effectivement, dans l'approche tactique, psychologique et dans ce qu'ils ont montré, le Rayo mérite, de toute façon, largement de passer. Mais comment tu peux faire un match en ayant 3 tirs cadrés en 180 minutes? Quand t'es Strasbourg et que t'es plutôt une équipe protagoniste d'ordinaire.
Et voilà. Antoine, merci beaucoup.
Et ça se termine en retour la maison.
Salut Antoine, à bientôt.
On
va conclure avec Julien qui est là. Salut Julien.
Oui, bonjour Gilbert.
Salut Julien.
Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Alors moi je me suis tapé 5 heures de route, je suis venu de la région de Lyonnais, je suis originaire de Strasbourg pour voir ça. J'en veux pas forcément aux joueurs, mais pour moi c'est vraiment Gary O'Neill qui peut que prendre cette défaite sur ses épaules.
C'est jamais de la faute des joueurs, les gars, arrêtez avec vos taillages d'entraîneurs en permanence là. Les joueurs aussi sont là quand même.
Mais détaille quand même, Julien.
Ça y a pas de souci, bien sûr, les joueurs. Mais pour moi, une équipe jeune comme ça, on peut attendre qu'ils aient une nécessité, une dépendance de l'entraîneur. Gary O'Neill, il commence avec une équipe sans Nanasi. Nanasi, le match contre Mayence, il est titulaire, on est bon. Derrière, il fait jouer 2 joueurs. Barco, il y a une semaine, il était en botte. Ça veut dire qu'il a même pas une semaine d'entraînement. Il a repris l'entraînement après 2 semaines d'inactivité. C'est impossible qu'il soit titulaire. On peut pas lui en vouloir. Doué, vous l'avez dit, il est pas là pendant 3 semaines. Encore une fois, une erreur, il peut le faire rentrer en deuxième rideau. Il peut mettre Ouattara arrière droit. Donc pas Nanasi. Doué et Barco titulaire, ça veut dire qu'en gros, il joue à 9. Derrière, on a 11 Espagnols qui ont la dalle. Pour moi, c'est le coach qui met ça. Ensuite, sur l'animation à la fin, il passe à 5 derrière avec Amoameyo et Morera. Et il met pas un gars d'1m85, 1m90 dans la surface. On reste avec Nsito qui arrive pas à mettre une tête, qui arrive pas à cadrer un pénalty. Ce coach-là, je suis désolé, je vois pas ce qu'il a apporté à Strasbourg.
Nsito, t'en penses quoi?
Contre Mayence, il est en game breaker. C'est un joueur flash, c'est un joueur, je sais plus comment dit Daniel, un joueur FIFA. Mais sur la durée, Strasbourg, depuis qu'il y a Gary O'Neill, pour moi, ils ont fait 3 matchs corrects. Ils ont fait 2 matchs, pardon. Ils ont fait à Lille, mais Lille était malade. Ils ont fait Mayence, où objectivement, ils ont fait un super match, mais ils n'ont pas pu le reproduire derrière. Et Nice, c'est ce soir. Pour moi, ça montre la limite de ce coach et de l'effectif en soi. Parce qu'avec tous les blessés, t'as tes 4 meilleurs joueurs qui sont blessés.
Et d'ailleurs, il y a un truc très révélateur. Il n'a fait que 2 changements. J'ai été surpris d'ailleurs qu'il ne fasse pas rentrer Jessy Myassine, qui, lui, à sa façon, dans cette fin de saison, a montré de la fraîcheur.
Oui, franchement, il a joué en Ligue 1 récemment, il n'a pas fait des bons matchs.
Ok, mais il a fait aussi comme quelques Toulouse, bonnes apparitions. Oui, mais dans ce cas-là, il ne tente rien.
Et t'as deux
changements dans ce match. T'as, comme tu dis, Amoameyo Nanasi qui pouvait
limite
commencer. Il n'y
a personne sur le banc, en fait.
Non, d'accord, mais t'as lui, par exemple. Et donc, moi, je te dis, quand t'as les mecs cramés sur le terrain, je suis un peu étonné pour aller dans le sens de ce que dit Julien. C'est vrai que. De pas tenter plus, tu vois, avec des joueurs fatigués.
En fait, la vérité, c'est qu'avec le recul, t'as quand même un tournant dans la saison, bien malgré toi, c'est la blessure de Panicelli. Tu vois?
Ouais,
parce qu'à partir du moment où il a disparu, c'est effondrement.
C'est vrai. Bah, il se trouve qu'en plus, ils perdent Barco et Doué à un moment un peu crucial, au moins ponctuellement, donc ça fait du mal.
Et méga, bon, bah, voilà, pour Strasbourg. En 6 mois, ça pose aussi des questions.
Exactement. Julien, merci. Bah, bon retour du coup, Julien. Bon courage pour rentrer et pour la route. Et à très bientôt dans l'after. Bon, je pense qu'on a tout dit sur Strasbourg. On va pouvoir passer au reste de l'actu du jour.
Juste, Gilbert, pour finir, tu avais raison. On est à commencer par ça parce que cette image-là de Emega qui se prend la tête avec.
Ils sont en train d'en parler à Morera. Je suis en train de savoir ce que Morera dit.
Franchement, c'est, comme tu as dit, c'est peut-être pas totalement sans conséquence sur le vestiaire parce que les autres joueurs étaient là à regarder ça de manière un peu interloquée.
La saison est terminée.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu dommage toi, de voir ce genre de truc.
Je pense que Méga, il jouera plus de toute façon. Il est blessé, il reste 3 matchs.
C'est enfin, fini. Cela dit, les trois matchs. La semaine prochaine, bah, c'est terminé. Dimanche prochain, c'est fini.
Daniel, le pire pour ça. Enfin, le pire. Strasbourg, il y a quand même un truc, c'est que si tu gagnes ces trois matchs et que là, on se gagne la Coupe, tu peux quand même te retrouver à faire une petite finale contre Monaco au dernier match.
Il reste deux matchs.
Bah, ils ont un match en retard.
Non, trois. T'as un match en retard.
Ils ont un match en retard, Strasbourg. Oui, c'est vrai.
Et oui. Donc, si tu gagnes les trois, que Monaco galère et que Lens gagne la Coupe, tu vois, tu pourrais dépasser Monaco. Il y a Strasbourg-Monaco, dernier match.
Ça, c'est pas moi qu'il faut le dire. J'espère que le club en est conscient qu'il y a encore quelque chose à sauver cette année, parce que sinon, ce sera un échec cuisant.
Si moi je m'en suis rendu compte, je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte quand même.
Tu devrais le redire, avec les relations que tu as au club, bah même dans le vestiaire. Pourquoi tu prendrais pas la place de Gary O'Neill pour les trois matchs?
J'aurais mis Nanasi titulaire déjà.
C'est pour ça que je te conseille de prendre sa place.
Je pense que si Gilbert est aux commandes, Enciso a du souci à se faire.
Je pense que le mec sur le champ. Il joue plus une minute. Il est bradé.
Non mais blague à part, il est exaspérant. Je sais pas ce que vous en pensez.
En plus, il a raté le péno.
Qu'est-ce que tu vas le lancer, Flo?
Non mais il y a un moment. Est-ce que vous avez vu ce moment où il arrive, pour la première fois du match, à la 70e, il arrive à se défaire de deux joueurs. Et il y a Amo Ameyo qui est seul. Il est en face d'Amo Ameyo. Il le voit, il doit lui donner, c'est le sens du jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il se retourne pour se remettre au milieu des deux joueurs qui venaient de dribbler. Là, tu te dis, mais là, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tu vois?
C'est pas le
fois, on a l'impression que c'est pas souvent qu'il se passe quelque chose dans sa tête, ça c'est vrai.
Bon, c'est pas le N6O le plus aiguisé du tiroir, c'est ça qui veut dire.
En tout cas, si j'étais entraîneur, j'irais voir le responsable du stand de tarte flambée juste à côté de ma tribune pour le féliciter parce qu'il fait du bon boulot. Voilà.
D'accord.
Je tiens à le préciser.
Ah oui, ça n'a aucun rapport, mais on comprend.
Ça n'a aucun rapport, mais j'ai goûté le travail avant le match, je dois dire que je valide. Voilà. Dans un instant, le Real. Edgar Grelot va nous raconter dans le détail ce qui s'est passé dans les vestiaires, parce que c'est assez fou.
Depuis qu'il est à Madrid, il dit jackpot, il est là, hein, il se passe des choses là-bas.
Ah oui, il n'est pas allé pour rien. Effectivement, on n'a pas envoyé Eddie Jackpot à Madrid pour rien. la preuve dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35 et Daniel Riello, Florent Gautreau sont là. On part à Madrid tout de suite. Edgar Grelot nous rejoint. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Chaos total.
Je vous ai entendu avant la pub.
Et il faut que tu nous racontes dans le détail, parce qu'on a les détails en plus, c'est ça qui est génial. Oui. Grâce au reportage que tu as fait avec également Fabrice Hawkins. Donc raconte-nous exactement ce qui s'est passé, parce qu'il y a différentes étapes, différentes montées en pression.
Si tu permets juste deux secondes, peut-être le préambule, Gilbert, qui s'impose obligatoirement, c'est juste de démarrer déjà en disant que tout est de la faute d'Mbappé, comme ça après Edgar est tranquille pour dérouler. Voilà, comme c'est le Real, on peut commencer, on dit ça, comme ça on est tranquillisé. Donc tout est de la faute de Mbappé. Puis maintenant, tu peux nous raconter ce qui se passe. Désolé, Edgar.
Voilà. Et à part ça, ce qui s'est passé ces derniers jours, ça s'est passé en deux temps. Hier, il y a une altercation verbale entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Ça chauffe un petit peu, mais c'est pas allé plus loin. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ils arrivent à l'entraînement. Fede Valverde ne veut pas serrer la main d'Aurélien Tchouaméni. Il continue de se chauffer un petit peu pendant la séance d'entraînement, notamment sur des contacts. Et ensuite, il rentre au vestiaire. Et là, au moment de rentrer au vestiaire, là, il y a une altercation physique et des joueurs essayent de...
Attends, je t'arrête parce qu'il y a une étape là que t'as ratée. C'est qu'ils sont à l'entraînement, donc Arbeloa dit, bon, puisque les mecs, ils veulent se chercher, je les mets dans la même équipe dans un exercice, et même dans la même équipe, ils se chauffent.
Voilà, et pendant l'entraînement, en fait, ça ne se calme jamais, la tension monte, et donc, au moment de rentrer au vestiaire, à ce moment-là, ça devient une altercation physique, les uns et les autres essayent de les séparer. Valverde tombe, à ce moment-là, il s'ouvre un petit peu la tête et il perd connaissance quelques secondes. Donc, il est amené à l'hôpital.
C'est grave, hein, la perte de connaissance quand même. Hein.
Mais il est allé à l'hôpital, maintenant on connaît le diagnostic. Il souffre d'un traumatisme crânien. Valverde souffre d'un traumatisme crânien et il va devoir maintenant observer une période de repos de 10 à 14 jours. Ça a été communiqué officiellement par le club. Ça, ce sont les éléments. Et n'oublions pas aussi que si on remonte un peu sur les derniers mois, Valverde et Tchouaméni, ce sont deux camps, si je puis dire, du vestiaire qui, déjà à l'époque de Xabi Alonso, étaient quelque part opposés, puisque Valverde était l'un des plus grands partisans du départ de Xabi Alonso et que Aurélien Tchouaméni était l'un des joueurs qui s'entendait le mieux avec Xabi Alonso et était l'un des chouchous de Xabi Alonso. Donc ça, c'est pour tout le contexte et ce qui s'est passé. Maintenant, il y a aussi un communiqué de Fede Valverde qui lui explique qu'en fait, donc pendant l'altercation, il serait tombé et il aurait heurté une table, et que donc, à cause de ça, il se serait légèrement ouvert le front. Bon, je sais pas comment, en t'ouvrant légèrement le front, t'as un traumatisme crânien, mais en tout cas, c'est ce que dit Fede Valverde.
Mais s'il a perdu connaissance,
précise. Bon. Ouais, non, mais ce qu'il précise, et c'est très important, il dit à aucun moment, mon coéquipier, donc Aurélien Tchouaméni, m'a frappé, et moi non plus. Voilà, ça, c'est la version du joueur. Maintenant, il y a aussi une autre communication qui a été faite par le Real Madrid, qui est de dire nous ouvrons des procédures disciplinaires à l'encontre des deux joueurs.
Mais contre la table aussi, non ?
On verra, peut-être contre la table, peut-être qu'elle a déjà été virée ou envoyée à IKEA, mais en tout cas
de nuit dans des procédures en Nouvelle-Zélande aussi.
Absolument.
Des procédures disciplinaires ont été ouvertes, on verra à quel point ils sont sanctionnés, mais ça peut être évidemment très sérieux puisque ça plonge le club encore plus dans le chaos. On
rappelle voilà, tu peux pas garder les deux joueurs dans un vestiaire. Enfin ce vestiaire il est mort, il est explosé, tu dois faire le ménage complet.
Déjà qu'il y avait énormément de tension, que c'était électrique. Là, c'est la goutte.
Au-delà,
c'est
le, au-delà c'est le du symbole, fait qu'évidemment, il faut virer Mbappé parce que tout est de sa faute. Je veux dire, une fois qu'on a évacué ce problème-là, les autres, il va falloir quand même dire ce qui se passe dans ce vestiaire depuis le début de la saison.
Rappelons un point très important.
Ceux qui ont carré Xabi Alonso, oui. L'attitude de Vinicius et Bellingham depuis le début de la saison. Enfin, il y a les épisodes, ils sont nombreux quand même dans toute cette histoire.
Fede Valverde est vice-capitaine du Real Madrid. Ne l'oublions pas. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et Tchouaméni est aussi un cadre du vestiaire. C'est pas n'importe quel deux joueurs. C'est pas Carrera, c'est Fran Garcia qui sont mis.
Oui, enfin, Carrera, peut-être qu'il a. C'est pas vraiment... parce que c'est un anonyme qu'il aura de se prendre une tarte dans la gueule par l'autre taré de Rudiger.
Ah, bien sûr. Mais ce que je veux dire,
il y a eu ça aussi en parallèle.
Oui, aussi. Il y a déjà eu une altercation physique avec Rudiger et Carrera. Il y a eu d'autres disputes, mais verbales. Bon, ça arrive dans tous les vestiaires. Mais là, effectivement, ça devient physique. Et surtout, il y a un joueur qui, on le rappelle, a un traumatisme crânien. Donc, c'est allé trop loin. Aurélien Tchouaméni, pour l'instant, n'a pas communiqué. Mais c'est très, très, très raisonnable de penser qu'il sera privé du Classico ce dimanche.
Ah bah,
par
je sais
le
pas
qui
vont jouer alors, hein, parce que Valverde
et
aussi.
Et Fede Valverde, dans tous les cas, est absent pour raison médicale.
Ah bah, ils vont jouer avec qui, ce Classico?
Mais ce qui est dingue dans tout ce qu'on dit depuis là c'est quelques jours, en dehors de l'affaire la récente, enfin entre les deux, entre Tchouaméni et Valverde, il y a, comme tu l'as dit, l'affaire avec Rudiger, enfin il y en a eu plusieurs, et le vestiaire explose, pour faire très simple.
Mais Rudiger, c'est Mbappé qui lui avait dit d'aller lui mettre une tarte à l'autre, en fait.
Non mais, plus sérieusement, il y a aussi un truc depuis le départ de Xabi Alonso sur la personnalité d'Arbeloa, qui est, parce que je dis pas que c'est facile hein, de tenir un vestiaire comme ça, loin de là, mais pour le coup... tu vois, t'as pas Zidane, t'as pas Ancelotti, t'as l'impression quand même que là, Arbeloa il tient rien du tout. Et d'ailleurs, je crois qu'il a accompagné, j'ai lu qu'il avait accompagné Valverde à l'hôpital. Je veux dire par là, j'ai l'impression qu'Arbeloa il est dépassé par les événements.
Oui, non, mais complètement. Mais il est dépassé par tous les événements depuis le départ. La seule chose que Arbeloa a réussi depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, et encore une fois, c'est pas à cause de lui directement que deux joueurs se sont battus. Hein, mais la seule chose qu'il a réussi, c'est effectivement redonner un petit peu de liberté à Vinicius, lui redonner le sourire, à Valverde aussi par moments sur le terrain. Mais sur le reste, et c'est pas pour l'incriminer, mais c'est un entraîneur qui avait aucune expérience, qui n'a pas le même charisme ou la même aura ou le même palmarès.
Enfin, les mecs de toute façon ne s'entendaient pas. Le vestiaire
n'est pas respecté
quoi
de la même façon. Ouais, mais il arrive dans un vestiaire qui était déjà extrêmement tendu. Qu'est-ce que tu veux faire quand dans ta carrière t'as entraîné que des joueurs de 17 ans, ne serait-ce qu'en conférence de presse, ça se voyait, il parlait de son équipe et il parle de son équipe comme si c'était des joueurs de 17 ans qu'il faut défendre à tout prix, même si ça a changé depuis 2-3 semaines, on sent qu'il en a un petit peu marre lui aussi. Mais évidemment le cocktail pouvait pas
marcher. Est-ce qu'il y a encore un patron Real, Edgar?
Ouais, c'est ça la question.
Est-ce que Florentino Pérez, dont on dit qu'il est très fatigué, est encore le patron de ce club?
Non, mais en fait le problème c'est que c'est l'échec avant tout de la direction d'en arriver là, puisque ça arrive pas du jour au lendemain d'avoir autant de situations chaudes en aussi peu de jours, aussi peu de semaines, aussi peu de mois. Donc c'est l'échec d'une direction, un manque d'autorité, tout ce qu'on disait sur la grande institution du Real Madrid là-bas, il y a voilà, pas des choses comme ça qui arrivent, etc.
Nulle part.
Tout ça c'est fini, et maintenant le vrai challenge pour la direction, au-delà du sportif, ça va être de replacer cette institution au centre du projet, de faire en sorte que tu aies des joueurs qui respectent le club, leurs coéquipiers, l'endroit où ils sont, qui ont envie de se battre pour le maillot, d'avoir un coach qui est au niveau aussi. Enfin, en fait, les chantiers,
il y en a. Il faut faire le ménage aussi. Il y a des joueurs qui ne peuvent plus être dans ce club. Il va falloir renforcer l'équipe. Le chantier, il est grand.
Mais très sincèrement, je vous propose un défi. Après l'émission, vous rentrez chez vous, vous regardez l'effectif du Real Madrid et vous vous dites, OK, si j'étais directeur sportif, qu'est-ce que je fais? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de changements à faire que c'est impossible à faire en un été. Et que ça va prendre.
Peut-être que tu les feras pas en un été, mais sauf que dans ton jeu, il y a des éléments que nous on n'a pas forcément, parce que je veux bien jouer à ton jeu, ça m'intéresse. Sauf que le directeur sportif, il est censé être à l'intérieur. En étant à l'intérieur, il doit savoir qui sont les joueurs qui ont encore le gaz pour continuer, et il doit savoir surtout qui s'entend avec qui et quels sont les clans, et mettre fin à cette ambiance délétère. Ça, c'est des infos que nous, on n'a pas en entier. On prend juste connaissance de qui s'entend pas, de ceux qui ont carré Xabi Alonso. Est-ce que c'est par eux que tu dois commencer à faire le ménage? Parce qu'ils ont carré un entraîneur. Oui, effectivement, Bellingham, je ne lui vois plus d'avenir dans ce club, notamment. Vinicius, c'est une question qui se pose. Avec Mbappé, c'est pas possible. Ça va être l'un ou l'autre. C'est ça que le gars doit mettre sur la table, et les décisions, elles sont là en fait pour le directeur sportif du Real.
Mais il y a des décisions aussi qui n'ont pas été prises plus tôt dans la saison. Alors aujourd'hui, Vinicius n'est pas le responsable de la situation sur les dernières semaines. Mais quand tu penses par exemple au début de saison et à sa réaction au Classico, c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu une décision plus forte du club pour instaurer le fait que c'est pas possible de réagir comme ça quand tu sors. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est pas pour dire que Vinicius est le responsable numéro un, mais c'est un exemple tellement frappant. Qui a choqué tout le monde.
Les Français, ça va pas fort quand même. Bon, Mbappé, on va pas refaire l'histoire. Tchouaméni, il se retrouve maintenant dans cette affaire-là. Kamavinga, on en veut plus.
Tchouaméni pourrait ne pas rejouer avant la Coupe du Monde. Hein, avant,
Ferland Mendy, il est blessé. C'est bon.
Alors, Ferland Mendy, le seul
Français pour qui ça va à Madrid, c'est Edgar Groslot, en fait. Tu vois,
Ferland Mendy, c'est intéressant aussi. Parce
alors, maintenant, il y a aussi le jeune du Rayo Vallecano.
Ouais, qui a été très bon.
Parce que pour Griezmann aussi, ça se passe pas bien.
Qui d'ailleurs ressemble furieusement à Pancho Abbandonado.
Tout à fait. Mais pour revenir sur l'affaire Ferland Mendy, elle est intéressante aussi pour faire écho à ce qu'on avait dit sur la blessure de Mbappé et le staff médical du Real. Parce qu'il y a toute une polémique aussi sur la nature de sa blessure. On a même parlé de fin de carrière sur
c'est pas une réalité.
Je me demandais si les médecins ils ont pas confondu les pieds et la tête pour l'examen du traumatisme.
Pour Ferland Mendy, déjà soyons très clairs, les rumeurs et même qui ont été les infos qui ont été données par la presse espagnole, actuellement c'est pas du tout d'actualité. Il n'envisage pas de prendre sa retraite. Par contre, ce qui est vrai effectivement, c'est qu'il a enchaîné les blessures et notamment depuis la saison dernière. Et ce qui est vrai aussi, c'est que le Real Madrid a pris des risques avec Ferland Mendy à certains moments, en le faisant revenir parce que en fait t'as des problèmes dans l'effectif, et donc tu te dis je préfère avoir Ferland Mendy à 50% et je prends le risque de le faire jouer. Ça avait été le cas par exemple à la finale de coupe l'année dernière, ça a été le cas cette année quand il a enchaîné des matchs tout de suite en jouant 90 minutes alors qu'il n'avait pas joué depuis 2 mois. La gestion, encore une fois, elle est mauvaise. Alors au-delà de ça, c'est sûrement aussi un joueur qui se blesse plus souvent que d'autres, évidemment, hein, quand tu regardes son historique. Mais il y a aussi une mauvaise gestion médicale, et ça concerne pas que Ferland Mendy.
Sur la gouvernance, c'est-à-dire que c'est quand tu as un problème dans le choix de ton entraîneur, quand tu mets Xabi Alonso, c'est donc pour faire du jeu, pour créer quelque chose de particulier, puisqu'on l'a vu faire à Leverkusen, mais que tu ne mets pas les joueurs qui vont avec et que tu ne soutiens pas, on va dire, ce projet-là. Quand derrière, tu as un problème de staff médical, effectivement, récurrent et important et grave, puisqu'on a vu des affaires quand même très graves qui concernent notamment Mbappé, c'est vrai que là, à un moment donné, tu dois te poser la question sur la tête du club, et effectivement, et pas seulement sur les joueurs et sur les conséquences qu'on voit aujourd'hui dans le vestiaire.
Alors, les gars, on fait une petite pause et ensuite on aura Jordan au 32-16 qui veut donner son avis des supporters du Real avant de passer au reste de l'actu du jour. On se retrouve tout de suite, encore un quart d'heure d'after ensemble.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et Florent Gautreau sont là, 23h49. Edgar Groslot également, car on parle de la situation en Espagne, à Madrid, au Real. On a Jordan au 32-16 qui est supporter du Real. Jordan, bonsoir.
Ouais, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Flo et bonsoir Edgar.
Est-ce que tu as une idée de qui va jouer contre le Barça là? T'as une équipe en tête?
Non, bah moi je peux aller jouer, mais je suis pas sûr que je vais apporter grand chose.
Mm-hmm. Ouais, tu peux toujours tenter, tu peux envoyer un CV vite fait, je sais pas.
Déjà, on avait Strasbourg qui devait jouer pour Strasbourg, Gilbert qui devait jouer pour Strasbourg ce soir. Si ouais. toi, tu dois aller jouer pour le Real.
Ouais, non, ça va pas être terrible.
Bon, t'en penses quoi de tout ça là? T'es catastrophé en tant que supporter du Real?
Moi, je suis dépité en fait. Je suis dépité parce que depuis, on va dire depuis 3 saisons en fait, on est devenu la risée du football européen, je pense. Depuis en fait la cérémonie du Ballon d'Or qu'on avait boycotté pour Vinicius.
Ah, c'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu les affaires avec les arbitres aussi, toujours pourchasser voilà. les arbitres.
Ah
partout.
Non, mais l'institution Real est pas loin du caniveau là depuis un an et demi, 2 ans. Hein.
Non, mais on est la serpillière de l'Europe. Quoi. On est la serpillière de l'Europe. Avant, on est le club qui faisait un peu rêver, le club de gentleman. Tu sais, on voyait les vidéos où les
mais
joueurs.
Mais c'était tenu par Florentino. Moi, je me demande si Florentino il est frais. Hein.
Ouais, je pense qu'il est plus trop frais à Florentino. Bah,
j'ai un doute là-dessus. Moi.
Non, mais quand
tu l'as croisé?
Ouais, qu'on le voit des fois, hein. On le voit.
On le voit quand on le voit, c'est.
À Noël, etc.
Il est fatigué,
c'est,
hein.
C'est pas l'orateur le plus passionnant de tous les temps. Ça, je vous l'avoue. Donc, on décroche souvent pendant les discours, mais. Non, mais c'est sûr que beaucoup se posent la question de savoir si Florentino Pérez, c'est toujours l'homme de la situation. Ça, c'est une certitude. Mmh.
Bon. Jordan, un truc à rajouter?
Bah après non, vous avez tout dit, mais bah là, la saison elle est galère et.
Tu vas regarder comme... dimanche quand même Barça Real.
Bah bien entendu, ça s'ouvre jamais un classico, mais en fait je me dis même si on perd, de toute façon le titre il est joué, donc à quoi bon. Je sais pas avec quelle équipe on va jouer et comme vous disiez tout à l'heure, reconstruire l'effectif, il y a tellement de chantiers à faire. Je sais même pas si on va trouver ce qu'on parlait de Toni Kroos qui devrait peut-être arriver dans un rôle de conseiller sportif un peu comme Zidane, mais enfin le chantier il est tellement gigantesque en fait. Je vois pas comment on va s'en sortir même pour la saison prochaine.
Bon, Toni Kroos qui a, je sais pas si vous avez vu ouais, ça sur les réseaux sociaux.
Il était sévère avec Mbappé.
Ouais, qui a expliqué en fait le pourquoi il y a souci avec Mbappé. Il parlait du terrain là, hein, il parlait du positionnement sur le terrain et en gros il disait qu'il fallait le faire jouer sur le côté déjà. Bon,
ça. Ouais. Je suis content d'être d'accord avec Toni Kroos. Ouais.
Et il avait dit partant où il est pas c'est sur bon le côté, signe, c'est n'importe quoi.
Ah oui, mais pas sur le côté, donc problème avec Vinicius.
Bon Edgar, je t'annonce que je souhaite ardemment que le Rayo Vallecano gagne la finale de la Conference League.
Ah quand même.
Ah oui.
Quand même.
Ah ouais, franchement. Ah,
ils ont montré une belle image.
Ah ouais, ils méritent. Bravo.
Ouais, mais en face t'as un Crystal Palace qui est à bloc. Hein.
Eh ouais, bah moi je suis pour le Rayo Vallecano.
Très bien.
Moi bah, c'est voilà. bien, j'ai bien. Moi je t'avoue qu'on s'en fout un peu.
Il a envie de dire après on a été battu par le vainqueur.
Maintenant,
non,
c'est ça. Maintenant que le roi de tous les Leipzig est mort.
Je pourrais aussi dire qu'on a été éliminé par un quartier de Madrid qui a un budget qui est
tout à fait.
Trois fois moins que le nôtre. Je pense que je serais quand même pour eux.
Je pense que le food truck qui a fait tes flammes cuches, il a un budget supérieur au Rayo Vallecano.
C'est possible. C'est possible. Bah, vu la qualité des lardons, je serais pas étonné. Bon Edgar, merci beaucoup.
À très vite.
À très vite, enfin, merci Jordan également. Oui, ouais, bah dimanche, toi, au moins.
Sportif, ouais.
Bah dimanche, t'as quand même le match. Bon,
aussi. Et on rappelle Jordan. Que si le Real ne gagne pas ce match-là, le Barça en plus va gagner le titre devant eux. Donc ça peut être une semaine exceptionnelle pour le Real.
C'est l'humiliation totale, quoi. Ça.
Bon. Exactement.
Salut Edgar. Avant de parler de droit télé. La concentration marseillaise est finie demain. Enfin, ce soir, ils dorment encore à la Commanderie, les joueurs, et demain, fin du.
Ah, ils ont été libérés.
Oui, alors ils sont libérés demain, mais ce qui est marrant, c'est pourquoi ils sont libérés demain alors qu'il y a un match dimanche, en fait. Tu vois,
mais c'était été... déjà. Bah,
parce que je pense qu'ils en ont marre de cette situation. Tout simplement, les mecs s'entraînent plus, les mecs en ont marre, ils veulent.
Oui, parce qu'en fait,
maison,
Florent Germain nous fait savoir que malgré la présence obligatoire et tout, ils font, c'est pas pour ça qu'ils font plus d'entraînement, en fait.
Non,
donc,
pas
je sais
du
pas
tout.
Ce qu'ils font.
Ils sont juste enfermés, c'est ce que je te dis.
Alors après, il y a des choses.
Et les entraînements sont pas de bonne qualité.
Non, c'est ça. Il y a des choses différentes, c'est que. La dernière fois, ils étaient partis aussi pour une mise au vert, tu sais, qui devait durer. Enfin, un confinement. Et puis finalement, la qualité des entraînements avait fait qu'ils avaient levé le confinement. Tu sais, je parle avant Nantes. Hein. Et là, donc, c'est très différent parce que tu lèves le confinement, mais apparemment, la qualité des entraînements n'est pas au rendez-vous. C'est un peu chaud aussi, un peu comme à Coréa.
Alors, vraisemblablement, ce que nous dit Florent, c'est que tout le monde a lâché l'affaire. Hein.
Ouais. Donc, là, oui. Ouais.
Je sais pas ce qui va se passer dans les matchs restants. Pour eux, mais donc c'est les échos du jour à Marseille. Je voulais également qu'on parle quelques minutes. Vous allez sur rmcsport.fr. Nicolas Pelletier a réalisé une longue interview de Florent Ouzo qui est le patron éditorial de Beansport, et qui défend sa chaîne, défend sa boîte, ce qu'on peut tout à fait raisonnablement comprendre, et qui dit nous on se fait allumer quand on a des retards de paiement, mais quand DAZN déchire un contrat de 400 millions, personne ne dit rien. Bon, ça fait partie de l'axe de défense. Et il parle aussi de Ligue 1 Plus en disant, avec ses mots, que Ligue 1 Plus va dans le mur.
Alors, sache que, j'ai trouvé son interview absolument médiocre. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, bonjour Florent, es-tu capable de défendre ces mêmes arguments dans l'after et de venir débattre avec nous de tout ça pour qu'on puisse avoir une discussion? J'ai deux, trois questions à te poser, puisque quand tu dis que Ligue 1 Plus va dans le mur, on veut bien être d'accord avec ça, puisqu'effectivement, on sait que le modèle est peu rentable et qu'il risque même d'y avoir une perte d'abonnés. Mais ça sert à quoi de le dire? En fait, vous avez proposé quoi? Puisqu'en fait, son discours est calqué mot pour mot. C'est marrant d'ailleurs quand ils disent « Nous, on n'a pas de lien avec le PSG, là, cette espèce de grande balivernes auquel personne ne croit. » C'est exactement mot pour mot les propos des gens du PSG qui me parlent et qui parlent des droits télé. Ah,
donc tu veux dire qu'il y a des éléments de langage communs?
Ils ont exactement le même discours. Et à chaque fois, je leur dis « Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez proposé ?» Qu'est-ce que vous avez... C'est exactement comme quand River est venu ici pour nous dire oh, il fallait aller à la canal, mais il ne voulait pas. Donc à quoi ça sert en fait de dire ce que vous dites? À quoi ça sert? Et le pire, c'est quand Ouzo nous joue l'argument qui est également l'argument des gens du PSG, puisque je l'ai, je le montrerai dans mon téléphone, comme ça il ne me prendra pas pour un con, du conflit d'intérêts entre Ligue 1 Plus et la LFP, comme quoi, puisque là franchement faut y aller pour sortir cet argument-là hein, quand même, hein. Pour se cacher du conflit d'intérêts entre le PSG et Bein, lui il va te sortir qu'il y a un conflit d'intérêts, puisque Ligue 1 Plus est un diffuseur qui appartient à la LFP. Mais c'est un diffuseur qui est né parce qu'il n'y avait personne. C'est un diffuseur par défaut. C'est un diffuseur pour éviter la faillite complète, pour éviter qu'il n'y ait même plus de Ligue 1 à la télé, que les gens puissent regarder le peu qu'ils peuvent encore regarder. Qu'est-ce que c'est que cet argument du soi-disant conflit d'intérêts? Quand en plus ça a été voté et décidé par le président de la LFP, qui est le premier supporter du PSG et qui est laquais de ton patron. Donc, je redemande publiquement à Florent Ouzo, parce que j'ai envoyé un message et qu'il m'a lâché un vu. En d'autres temps, il ne me lâchait pas de vu, il me répondait. Donc, viens ici, le fauteuil est en face, et nous allons parler de ces sujets, et on va voir de quelle façon tu t'en sors, et de quelle façon tu réussis à me démontrer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt.
Si Florent Ouzo vient, c'est pas non plus un tribunal.
Il y a même à l'UEFA et à l'ECA et à tout ce qu'il veut, même s'il veut.
Si Florent Ouzo vient, c'est un dialogue qui s'installe, et on n'est pas un tribunal.
Je serais ravi d'avoir le dialogue, mais je vois pas comment il peut dialoguer, en fait, parce que ses arguments sont fallacieux, donc.
Bon, il n'empêche qu'il peut venir les défendre s'il a envie.
Ah, ben il peut nous dire pourquoi ils ont eu tous les retards de paiement, pourquoi plein de choses. Mais après, il répondra.
Flo, tu veux ajouter un truc là-dessus?
Non, rien du tout. Si ce n'est qu'effectivement le truc que dans l'interview le plus intéressant, c'est effectivement cette notion de conflit d'intérêt, parce que oui, forcément, on peut considérer qu'il y a un conflit d'intérêt, mais on a nous-mêmes appelé de nos voeux la création d'une chaîne comme celle-là parce qu'il n'y avait pas de solution. Donc aujourd'hui, après, en revanche, là où je pense qu'on peut tomber d'accord avec ce qu'il dit, c'est quand il dit ça va dans le mur, parce que pour l'instant et malgré alors le 9e match, on verra, puisque tous les matchs seront maintenant sur la même plateforme. Mais il est vrai que les abonnés à 1 100 000, je crois 150 000, au dernier pointage, c'est
non, les prévisions sont pas bonnes. Mais ça on le savait. Mais s'ils nous donnent une meilleure solution, eh ben on sera ravis d'avoir une autre solution.
Le débat continuera sans doute pas chez Julien Cazard dans quelques instants.
Ah bah si,
Julien. Ah bon, tu veux parler de droite télé, toi?
C'est ça, ou alors on débrief le match Rayo Vallecano Strasbourg.
On peut le refaire si tu veux. La souffrance.
Est-ce qu'on est vraiment sur une année de lose magnifique quand même? C'est sublime ce que vous êtes en train de faire.
De quoi, Strasbourg?
Ouais.
Bah le club n'a jamais été en demi-finale de Coupe d'Europe. Quand
et
même.
Encore une fois, on va passer en boucle l'avis de Jean-Louis Tour. Dans l'émission, on va revenir régulièrement sur l'avis de Jean-Louis Tour, qui avait été grand clair. Il y a eu Unai Emery et Jean-Louis Tour.
En revanche, j'espère que tu n'as pas raté les 1 million. Combien de votes en une minute?
Oui, mais ça c'est faux, c'est fake. C'est pas pour autant qu'il est devenu sympa. Hein, ça le rend pas sympa.
Non, mais quand on découvrira que ça vient de Paris, ce sera encore plus sympa.
Oh là là, les complots. Déjà, Gilbert, j'ai vu que si c'était la photo de Nasser, vous aviez perdu ce soir.
On m'a dit, ça vient d'un appartement du 11e arrondissement.
Oui. Ça va, j'habite dans le 17e.
Dans le 17e, pardon.
Ah oui, c'est ça.
T'as déménagé.
Mais j'adorerais faire ça. Je trouve ça tellement drôle, cette pétition. J'adorerais faire ça, moi.
Allez, Lenny Lucas a enchaîné, c'est tout de suite.
RMC, l'After Foot.